France Musique. Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Ce Musique Matin sera consacré en grande partie au réalisateur Bertrand Tavernier, qui nous a quittés il y a 2 jours. Tavernier, scénariste et cinéaste. Tavernier, cinéphile. Tavernier, mélomane. À 7h45, nous serons en ligne avec un grand spécialiste des musiques de films, Stéphane Lerouge. À 8h30, l'acteur Philippe Torreton, qui a tourné 4 films avec Tavernier, sera dans ce studio. Et puis à 8h50, Christophe Chassol consacrera sa chronique au film Autour de minuit. Les autres rendez-vous de cette matinale, à 8h, battement de cœur. Comment se portent les cœurs amateurs en temps de pandémie? Élément de réponse avec Marc-Olivier Dupin. Et à 8h15, Sophia Anastasio nous emmène là où la musique est vivante, où les concerts retentissent, à Monaco. Pour l'heure, il est 7h30, après minuit, quelque part, round midnight. Thank you. Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la basse, Tony Williams à la batterie. Et peut-être avez-vous reconnu cet instrument avant si singulier, c'est la voix de Bobby McFerrin. Surround Midnight figure dans la bande-son Autour de minuit, film de Bertrand Tavernier sorti en 1986 et qui s'inspire de la vie du saxophoniste Lester Young et du pianiste Bud Powell. Ce film a valu à Tavernier une multitude de récompenses, dont l'Oscar de la meilleure musique de film. Vous en saurez plus à 8h50, car Christophe Chassol viendra en studio décrypter ce thème, Around Midnight, et son utilisation dans le film. Ce film a surtout été une déclaration d'amour du cinéaste Tavernier pour le jazz, son admiration pour Duke Ellington, qu'il avait, cette admiration, il l'avait demandé à Philippe Sard, compositeur de musique de film, ou plutôt scénariste musical, comme il aimait se définir. Il avait donc demandé à Philippe Sard d'imiter le son du Big Band de Duke Ellington pour le film Coup de torchon dans les rues de Saint-Louis.
Je travaille avec un compositeur très très tôt, dès le scénario, et j'attends d'un compositeur qu'il m'étonne. Non pas qu'il commente le film, mais tout d'un coup qu'il me fasse découvrir des zones émotionnelles auxquelles j'avais pas pensé. Tout d'un coup, qui m'amène quelque chose de plus. Philippe Sard se définissait moins comme un compositeur que comme un scénariste musical. Je trouve que c'est une assez bonne définition. Je pense que la musique ne doit pas commenter de manière pléonastique le film, ce qu'elle fait souvent. notamment dans le cinéma américain où on a l'impression qu'on a affaire à 130 minutes de musique sur un film de 110 minutes. La musique, elle doit arriver, elle doit tout d'un coup jeter un coup de projecteur sur quelque chose qui n'a pas été exploré par le dialogue ou par le jeu d'acteur. Elle doit prolonger une émotion. Et moi, j'ai eu des moments de bonheur, que ce soit avec Antoine Duhamel, que ce soit avec Philippe Sard ou avec Marco Beltrami dans La Brume électrique. À chaque fois, je pense qu'il n'y a pas eu un moment, un film que j'ai fait, où je n'ai pas éprouvé une joie immense pendant l'enregistrement de la musique.
Plusieurs facettes de la collaboration du cinéaste Bertrand Tavernier avec le musicien Philippe Sard. On entendait un extrait de la bande originale Coup de torchon en 1981, suivi de la voix du cinéaste au micro de France Culture en 2019. Et enfin, l'une des musiques de L'horloger de Saint-Paul, film de 1974. On reparle tout de suite du rapport image-musique avec Stéphane Lerouge. Et à 7h45, c'est l'heure du choix musical avec Café Croissant. Nous sommes en ligne avec Stéphane Lerouge, grand connaisseur des musiques de films, responsable de la collection de bandes originales de films Écoutez le cinéma pour Universal Music. Stéphane Lerouge, bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous prêté attention à la musique des films de Bertrand Tavernier? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois?
Oh, bah écoutez, j'avais 14 ans exactement, ou 15 ans, et Bertrand Tavernier était venu dans mon lycée en Bretagne. C'était donc entre un dimanche à la campagne et autour de minuit, donc vers, je pense, direct 84-85. Et donc j'avais pu découvrir ces films le temps d'un week-end, et j'avais été très marqué par Le Juge et l'Assassin, notamment par une séquence précise où le personnage de Jean-Roger Caussimon, qui joue une sorte de troubadour, chante une plainte sur les exploits sanglants du héros du film Bouvier. Et c'est magnifique parce que la complainte commence de façon totalement réaliste avec une voix, une harpe, et puis brusquement l'orchestre entre, les cordes, les bois, les cuivres, et on voit comme ça Galabru dans des paysages magnifiques, grandioses, filmés en plan de grand ensemble. Enfin, c'était absolument, je voyais ce que la musique pouvait apporter à l'image. Et lors du stage, la rencontre d'après, je lui ai posé une question justement sur son rapport à la musique. Il nous a tous assénés, on était des lycéens, on était en seconde, il nous a tous assénés, mais regardez les films, mais surtout écoutez-les.
Stéphane Lerouge, à quel moment est-ce que la critique de cinéma a commencé à s'intéresser à la musique des films de Tavernier?
Je pense qu'il y a deux grands axes chez Tavernier qui sont Philippe Sard et Antoine Duhamel, qui sont les deux compositeurs avec lesquels il a le plus travaillé. Je pense que les partitions comme Coup de torchon, La mort en direct ont eu un certain impact. Mais paradoxalement, c'est quand la musique est devenue le sujet de ces films, et notamment avec Autour de minuit en 86, qui était une partition composée bien sûr de standards, de jazz, bebop, mais aussi d'une musique originale de Herbie Hancock, que là vraiment on a mesuré la pleine dimension de son rapport intime à la musique. Et je sais que Bertrand souffrait aussi parce que par exemple dans Que la fête commence, qui est son deuxième long métrage, il avait exhumé, ressuscité et fait réenregistrer un opéra écrit par le régent de France Philippe d'Orléans, et ce qui était quelque chose d'absolument inouï, puisque finalement la musique du film était écrite par le personnage que l'on voyait à l'image joué par Philippe Noiret. Et Bertrand disait toujours, mais c'est fou, personne, aucun critique, que ce soit un critique musical ou un critique de cinéma, n'a relevé cette espèce de singularité ultime, qui d'ailleurs je pense est un cas d'école dans l'histoire de la musique au cinéma. Moi je pense que c'est vraiment, il a fallu attendre vraiment 1986 Autour de minuit, et par la suite, souvent, voilà, il pouvait parfois râler ou déplorer, il aurait aimé que les critiques soient plus curieux, et c'est que par exemple, quand il confie au bassiste afro-américain Ron Carter la musique de La Passion, Béatrice, qui est un film d'une violence, d'une âpreté terrible qui se passe au Moyen-Âge, il dit, mais personne ne relève à quel point j'emmène Ron Carter vers finalement, je le mets en contre-emploi de lui-même. Et voilà. Donc, il avait des grands accès d'enthousiasme, et puis parfois il déplorait l'absence de curiosité de la critique, notamment cinématographique, sur la musique. Mmh.
Vous nous parlez du répertoire des choix musicaux de Tavernier, mais quelle était la spécificité de son rapport, du rapport entre l'image et la musique dans ses films, d'après vous?
Je dirais que Bertrand savait que la musique et son compositeur, ou le compositeur qu'il avait choisi, devait apporter quelque chose qu'il n'avait pas tourné, quelque chose qu'il n'avait pas mis dans l'image, quelque chose qui n'était pas dans le dialogue, pas dans le jeu des comédiens. Et ayant eu la chance, notamment, d'animer tellement de conférences, de rencontres avec lui pendant toutes ces années, on faisait souvent quelque chose, un exercice qui était passionnant, c'est que on montrait la première séquence de Coup de torchon, la séquence dite de l'éclipse, où Noiret est assis au pied d'un baobab et regarde des enfants africains qui jouent dans le sable. Le regard de Noiret est extrêmement ambivalent, on ne sait pas trop si c'est un regard malveillant ou bienveillant. Et on montrait cette séquence sans la musique. C'est-à-dire qu'on plaçait les spectateurs dans la position qui avait été la position de Philippe Sard quand il a découvert le film au montage. Et en leur disant, voilà, vous êtes le compositeur du film, qu'est-ce que vous pourriez écrire là-dessus? Et ensuite, on montrait la séquence avec la musique. Et là, généralement, les spectateurs étaient soufflés par la partition, par ce thème de thriller, mais son rythme de tango, et qui apportait une folie, une démence, et même qui annonçait justement la folie meurtrière du à venir du personnage de Philippe Noiret.
Stéphane Le Rouge, on va se quitter en musique, bien évidemment. Quel morceau est-ce que vous souhaitez nous faire entendre ce matin ?
Le premier compositeur que Bertrand ait connu, c'était Antoine Duhamel dans ses années Nouvelle Vague. Antoine Duhamel, compositeur de Godard, notamment Pierrot le Fou, dont Bertrand Tavernier avait été attaché de presse. Ils ont fait 4 films ensemble, et le dernier d'entre eux s'est laissé passer en 2000. Et Bertrand avait commandé à Antoine une valse, paroles de Jean Cosmos, valse de la mélancolie, valse du temps passé et dépassé, chantée par Marie Desgranges. Et je trouve que c'est une façon de vraiment de rendre hommage de façon intime et profonde à Bertrand.
Merci beaucoup Stéphane Le Rouge, bonne journée à vous.
Merci, à très bientôt.
Laisse passer le temps, laisse passer le jour, laisse passer le vent, mais surtout pas l'amour. Pas l'amour, pas l'amour. Laisse passer l'envie, laisse parler ton cœur, laisse passer la peur, mais surtout pas la vie, pas la vie. Pas la vie. Quand vient la guerre, toutes les femmes deviennent femmes. au-dessus des flammes, le retour d'hommes incertains, laissant passer l'horreur, laissant passer l'effroi, laissant passer la peur et priant. À mi-voix, laisse passer le temps, laisse passer le jour, laisse passer le vent, mais surtout pas l'amour, pas l'amour. Laisse passer l'envie, laisse parler ton cœur, laisse passer la peur, mais surtout pas la vie, pas la vie, pas la vie. Au jour venu, s'habilleront de robes claires pour attendre sous les platanes les hommes, retour de l'enfer. Laissez passer le temps, laissez passer les jours, laissez passer.
Suivrons cet hommage à Bertrand Tavernier à 8h30 dans une petite demi-heure avec Philippe Torreton, comédien qui a beaucoup travaillé avec le cinéaste. Et le disque à gagner ce matin est un livre CD pour enfants qui fait découvrir Mozart à hauteur d'une petite souris. C'est très joliment écrit, illustré, grâce au savoir-faire d'une maison d'édition québécoise qui mérite d'être connue en France. Quel est le nom de cette maison d'édition ? Est-ce la grotte secrète, la cabane secrète ou la montagne secrète? Envoyez-nous votre réponse en allant sur le site de France Musique, sur la page de Musique Matin, cliquez sur Connectez-vous, remplissez le petit formulaire. Je répète la question, quelle est donc cette maison d'édition québécoise qui sort un livre CD sur Mozart, mais aussi sur Vivaldi, sur Tchaïkovski? Est-ce la grotte secrète, la cabane secrète ou la montagne secrète? Écrivez-nous vite et bonne chance. Thank you.
Carrefour de la Création, le dimanche de 20h à 18h30, France Musique.
Engagées depuis leur début pour la création musicale, Katia et Marielle Labec ont travaillé aussi bien avec Pierre Boulez que Philippe Glass. Retrouvez les sœurs pour la première fois seules au micro du Carrefour de la Création. Elles partageront leurs dernières découvertes, feront écouter quelques œuvres phares du répertoire récent et reviendront sur leur carrière musicale. Carte blanche à Katia et Marielle Labec, dimanche dans le Carrefour de la Création.
Collection Signature Radio France présente un nouveau disque d'Hélène Collerette, Tzigane de Ravel, sonate pour violon seul et danse populaire roumaine de Bartok, 8 duos pour violon et cymbalum de Courtag et Mosaïque de Bruno Coulet. Un nouveau disque de la collection Signature Radio France.
Et les 8h sur France Musique, j'espère que vous portez bien. Vous, Marc-Olivier Dupin est en ligne avec nous pour sa chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Priscine.
Alors vous allez nous parler de la situation des cœurs amateurs ce matin, des cœurs amateurs qui traversent une période difficile. Comment la vivent-ils ?
Ben, généralement très mal, à la fois pour des raisons artistiques mais aussi sociales. Ne plus se retrouver pour partager des bons moments musicaux est une réelle souffrance pour beaucoup de choristes et de chefs de chœur. Petit témoignage de ce qui se faisait avant, d'un compositeur bulgare, Petar Liandev, un chant d'inspiration populaire par un chœur de femmes du Conservatoire de Bordeaux sous la direction de Thibaut Fuster.
Marc-Olivier, depuis le début de l'épidémie, comment est-ce que les chefs de chœur maintiennent-ils leurs liens, les liens avec les choristes ?
De différentes façons, au gré des recommandations sanitaires et des interdits. Depuis mars 2020, à certaines périodes, des répétitions en petits groupes ont été possibles, en intérieur ou en extérieur. À d'autres moments, seul le lien généralement par Zoom, a permis une forme de continuité. Et parfois des prouesses autant musicales que techniques. New York, 150 choristes et instrumentistes se réunissent virtuellement pour réaliser cette chanson.
Mais Marc-Olivier, concrètement, comment faire un travail régulier par Zoom quand on est un cœur ?
Ce travail est nécessairement limité et quand on fait de la musique ensemble, évidemment, rien ne remplace le contact direct, le regard, le geste partagé. Mais on peut tout de même faire un certain travail technique sur la respiration, l'échauffement, la préparation des œuvres, voix par voix, etc. Et même si ce travail ne remplace pas le vécu d'avant, il faut néanmoins soutenir les associations 1901 qui sont le support juridique de la pratique chorale. Je sais par exemple que certains choristes rechignent à payer l'inscription à la chorale alors que les répétitions en live sont interrompues. Mais il ne faut pas affaiblir financièrement ces associations, d'autant plus que les chefs de chœur font preuve d'une extraordinaire imagination et d'une inventivité magnifique pour conserver par tous les moyens ce lien avec leurs choristes. Une juste rémunération leur est due.
Et selon vous, quelle forme pourrait prendre la sortie de crise ?
Alors on peut espérer qu'au cours du printemps, la situation sanitaire s'améliore progressivement. En mai, juin, les chœurs retrouveront peu à peu une activité, espérons-le. Alors si j'ai un conseil à donner, il me semble très important que les chorales d'amateurs préparent pour la fin de l'année scolaire un programme très court pour pouvoir le monter, et très festif pour redonner du plaisir aux chanteurs et retrouver un public. Faisons donc nôtres les paroles de « Devinez qui ?»
Je chante soir et matin, je chante.
Les paroles de Charles Trenet. Merci beaucoup, Marc-Olivier Dupin. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se profile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je rentre les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, et je chante sur mon chemin.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Thank you.
Regret sans fin de Josquin des Prés, extrait du dernier album des Clément Jeannequin, consacré à la musique de Josquin des Prés. L'ensemble, dirigé par Dominique Wyss, viendra justement cet après-midi interpréter d'autres chansons du compositeur mort il y a exactement 500 ans, en 1521. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h dans Génération France Musique, le live, l'émission de musique vivante présentée par Clément Rochefort. La musique et vivante également en Savoie. Rendez-vous en ligne pour la Brèche Festival qui aborde la musique classique par des chemins de traverse. Comme ce soir, vous pouvez voir un duo de danse et de piano. François Chéniaud dansera aux côtés du pianiste Romain Louveau. C'est à 20h30. Et parmi les concerts déjà passés mais à revoir de la Brèche Festival, il y a un face-à-face entre le violon de Fiona Mombet et l'accordéon de Pierre Cussac, une collaboration qui a déjà porté des fruits au disque. Écoutez. Fiona Mombet au violon, Pierre Cussac à l'accordéon, c'est un extrait de leur album Contrebande. Et c'est l'heure du reportage de Sophia Anastasio à 8h16 sur France Musique. En ce moment, dans la principauté de Monaco et jusqu'au 11 avril, se tient le Printemps des Arts de Monte Carlo. Les manifestations culturelles peuvent accueillir du public dans la principauté et c'est l'occasion, devenue rare, voire impossible, du moins en France, pour les artistes de retrouver des spectateurs en chair et en os. Sophia Anastasio était dans la salle.
Mesdames, Messieurs, le spectacle va commencer dans quelques instants. Vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables.
Ce sont quelques phrases qui nous ont manqué et qui manquent encore aujourd'hui au public français. Nous sommes ici au Sporting de Monte Carlo pour la création de Snow on Her Lips de Sébastien Rivas. C'est la première fois que cette pièce rencontre du public et la première fois aussi depuis longtemps que le compositeur retrouve une salle dont les sièges sont occupés, ce qui a fait naître en lui de nombreuses émotions.
Tout d'abord, la peur, la peur, comme on a toujours quand on crée quelque chose, et qui est, faut dire que le projet a fait intervenir un téléphone portable avec une captation de visage, quatre ordinateurs pour la vidéo, le son, etc. Donc c'est, techniquement, ça peut être un peu risqué. Mais c'est surtout la joie de voir la salle se remplir, d'entendre ce bruit de gens, ces odeurs qui rentrent, et puis la proximité des gens, et puis à la fin l'odeur de la sueur, l'odeur de la sueur des performeurs, c'est tout ce qui nous manque en fait, qui devient du coup décuplé, ça décuple nos émotions. Ouais.
Le lendemain, Bertrand Chamaillou donnait un récital Liszt, l'intégrale des années de pèlerinage à l'Opéra de Monte-Carlo. La semaine précédente, en Espagne, il avait déjà pu donner un concert en public, en duo, avec la violoncelliste Sol Gabetta, l'occasion de retrouver tout ce qui lui avait manqué.
Déjà, le bruit, moi j'aime bien aussi. Alors, les gens toussent plus du tout là, parce que dès que quelqu'un tousse, toute la salle le suspecte d'avoir le Covid. Alors, bon, c'est un peu. On n'entend plus les gens tousser du tout. Et en fait, je ne saurais pas dire si c'est agréable ou pas. Dans certains cas, c'est sûr qu'il y a pu avoir des toux nerveuses un peu excessives, hein, dans certains concerts. Mais moi, je ne suis pas. Un ayatollah du silence absolu dans la salle. J'aime bien que ça vive un peu. Les programmes qui tombent, etc. Moi, ça m'amuse plutôt. Alors, évidemment, les applaudissements, ça nourrit énormément, ça fait du bien, c'est-à-dire de sentir la joie des gens, enfin, tout ce qui permet, en tout cas, d'interagir avec les gens.
Béatrice Berut a également interprété du Liszt ce même week-end. Le compositeur est à l'honneur cette année au Printemps des Arts. La dernière fois que la pianiste s'est produite devant un public, c'était fin octobre en Allemagne. Et en retrouvant les spectateurs, la musicienne a réalisé ce que cette période lui avait apporté.
Bien, en fait, j'étais très étonnée de voir que mon rapport avec la scène et le public avait un peu changé pendant ces 5 mois justement. Parce que j'ai travaillé quasiment que pour la beauté du geste, que par amour de la musique. Et puis en fait, ça a créé une forme d'intimité tellement forte avec la musique que j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien qui se mettait entre elle et moi. Et en fait, c'était une source d'un sentiment, ça a fait émaner un sentiment de confiance en fait et de proximité que j'avais rarement eu avec la musique avant sur scène.
En raison des mesures prises par le gouvernement français et le troisième confinement qui touche les Alpes-Maritimes, seuls les Monégasques et les personnes habitant dans un rayon de 10 km peuvent assister au concert. Ce qui a fait des déçus, nous explique Marc Monet, directeur du festival. Nous lui avons demandé si certains avaient tout de même essayé de demander des dérogations.
Bon, alors, c'est évident qu'on a eu des réactions et de gens frustrés puisque nous avons 60% du public habituellement qui est français. Et italiens aussi, et les Italiens, c'est pareil, ne peuvent pas venir en France. Bon, donc, acte. C'est vrai qu'il y a eu des demandes de ce type qu'on ne peut pas faire, parce qu'on ne peut pas faire des faux. Mais par contre, ce qu'on a constaté, ça a été encore le cas aujourd'hui, il y a des Français qui ont réussi à venir, qui sont vraiment entêtés, et je ne sais pas comment ils ont passé les contrôles, mais ils sont venus.
Et ceux qui sont venus ont acclamé les musiciens présents. Ils ont pu profiter de moments impossibles à vivre avec le streaming, comme les bis. Béatrice Berut a ainsi offert au public, en fin de concert, une sicilienne de Bach.
Et on en a de la chance, Sophie Anastasio. C'est un reportage à retrouver sur notre site francemusique.fr et sur la page de Musique Matin, bien évidemment.
Oh,
Sanglots de Francis Poulenc dans la voix de Patricia Petitbon aux côtés de la pianiste Suzanne Manoff. Ce sont d'autres soupirs et incompréhensions mis en musique par Francis Poulenc que vous pourrez entendre ce soir dans Samedi soir à l'Opéra. Nous diffuserons La voix humaine de Poulenc, toujours dans l'interprétation de la grande soprano Patricia Petitbon, suivie d'une création de Thierry Esquech, Point d'orgue, avec Cyril Dubois et Jean-Baptiste Bou. La mise en scène sera signée Olivier Py. France Musique a donc posé ses micros au Théâtre des Champs-Élysées pour capter cette production sans public début mars. Rendez-vous donc ce soir à 20h dans Samedi soir à l'Opéra avec Judith Chen. Et puis si vous avez manqué hier soir sur France 5 la diffusion du Faust de Gounod sur la scène de l'Opéra Bastille avec le ténor Benjamin Bernheim dans le rôle titre, pas de panique, la vidéo est encore en ligne jusqu'au 3 avril. 3 avril, date à laquelle vous entendrez la captation sur France Musique, toujours dans Samedi soir à l'Opéra. L'occasion de comparer avec une version intégrale enregistrée par Christophe Rousset, les talents lyriques, et Benjamin Bernheim, c'était en 2019.
J'arrive sans terreur au terme du voyage et je suis avec ce breuvage le seul maître de mon destin.
Un extrait du Fausse de Gounod dans la voix de Benjamin Bernheim. Il est 8h30 tout pile sur France Musique et nous accueillons dans ce studio notre invité, le comédien Philippe Torreton.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Bonjour Philippe Torreton, bienvenue dans les studios de France Musique ce matin.
Merci, bonjour à vous.
En tant que comédien, vous avez pris part au tournage de 4 films, je crois, de Bertrand Tavernier.
Absolument.
Vous avez tourné notamment avec lui, Capitaine Conan, un rôle qui vous a valu le César du meilleur acteur, sur une musique d'Oswald Andrea. Et le dernier film remonte à 1999, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Ça commence aujourd'hui. Vous jouiez alors le rôle d'un directeur d'une école maternelle dans le nord de la France qui cherche des solutions concrètes aux enfants maltraités, aux familles démunies, qu'on dit du quart monde. Qu'est-ce que ce film disait de Bertrand Tavernier ?
J'ai envie de dire tout simplement son constat d'insatisfaction du monde tel qu'il va, tel qu'il allait et tel qu'il continue à aller. Et donc, ça l'a fait hurler quand il a rencontré Dominique Sampiro par l'intermédiaire de Tiffany Tavernier, sa fille. Il a entendu le récit de cet instit, quoi, qui écrivait, qui est poète. Dominique Sampiro est un très grand poète. Et il lui a raconté le quotidien. Lui, Bertrand aimait vraiment le tout ce qui ne se dit pas dans les journaux ou ce qui se dit mal. Et il aimait bien que un individu témoigne devant lui de sa réalité. Et c'était son objectif, c'était de coller au plus près d'une réalité, et celle de Dominique Sampiro notamment. Et après, il faut rendre ça cinématographique. Et c'était son travail, il excellait là-dedans, mais c'était ça partait d'un souci de véracité d'abord, mais aussi d'unicité, c'est-à-dire il avait une conscience de c'est en racontant le singulier qu'on touche le pluriel, je crois.
Ce film, ça commence aujourd'hui, a pour bande son une musique de fanfare composée par Louis Clavis. Et sur cette musique de fanfare, on vous voit dans ce film, Philippe Torreton, danser avec une petite fille.
Oui, dans les bras, ouais. Et avec plein d'enfants autour, parmi des bouteilles en plastique remplies d'eau colorée, grâce à des vieux feutres qu'on avait fait tremper dans l'eau. C'était une vraie fête à la fois une fête de fin d'année d'école et une fête de fin de film.
Ouais. On aperçoit donc cette fanfare à plusieurs moments du film, donc en particulier à toute fin. Que savez-vous du choix musical de Tavernier, de pourquoi faire intervenir des musiciens sur le plateau ?
Je crois que ça appartient à ce que je disais tout à l'heure, son souci de pas tricher. Il y avait une fanfare locale. Il a demandé à Louis Clavis, le musicien et compositeur qu'on vient d'entendre, génial musicien. Et donc il avait en charge toute la musique du film et il a demandé à Louis de les faire répéter cette petite valse. Pendant que nous, on tournait autre chose, dans une salle un peu plus loin, ils ont répété avec Louis Clavis. Et après, quelques jours plus tard, on tournait cette scène de fin d'année scolaire, cette fête d'école. Et donc, il y avait pour tout le monde, il y avait un gros trac, parce que c'était il fallait faire ça pour de vrai, défiler avec les enfants, parmi les bouteilles, c'était compliqué à refaire, donc. C'était. Ça aurait été plus simple de faire du playback, et puis. Mais c'est pas ce que voulait Bertrand. Il voulait que ça soit vrai à l'œil nu, pour que ce soit vrai à l'œil de la caméra.
J'aimerais qu'on évoque aussi le travail de Bertrand Tavernier, votre travail, vous, avec lui, au travers de la musique d'un autre de ses films, L627. Pour la bande-son de ce film, L627, Tavernier avait proposé à Philippe Sard d'utiliser une viole de gambe, des saxophones, des clarinettes basses, une batterie, des percussions, tout un instrumentarium, afin de retrouver peut-être un climat de violence, d'instabilité dans la musique, des ruptures. Mmh. Que pensez-vous que Bertrand Tavernier recherchait dans la musique de ce film en particulier?
Quelque chose de légèrement chaotique, parce qu'il y a plus chaotique que ça en musique, mais quelque chose d'heurté, rythmique, différentes rythmiques, effectivement. Il a sa façon de diriger les comédiens, d'ailleurs, était souvent basée sur le rythme, comme un il était plus un chef d'orchestre qu'un directeur d'acteur, finalement. Il aimait bien que ça aille vite, quand ça devait aller vite, évidemment, mais il avait une grande oreille musicale, je crois pouvoir le dire.
C'est-à-dire qu'il vous écoutait jouer?
Oui, mais d'ailleurs...
Il écoutait vos voix d'abord?
C'est rare que... J'ai souvent vu Bertrand avec le casque sur les oreilles et la tête baissée quasiment dans les genoux, assis sur une petite chaise à écouter la scène. Après, il faisait confiance au cadreur pour savoir cadrer le plan comme il le voulait et vérifier, bien sûr. Mais le son lui était très 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 important. Mais j'ai remarqué ça. Il y a beaucoup de réalisateurs comme ça qui sont très très attachés au son et c'est souvent bon signe, je trouve. C'est l'obsession de l'image peut nuire finalement au résultat d'un film. Ce qui compte, c'est ce qui va se dire aussi. C'est pas seulement comment on le montre, c'est les deux. Mais
le rythme des répliques.
Le rythme, ouais, le général de tout, les répliques, la façon de bouger, d'utiliser les accessoires et ça. Et je pense que son rapport, c'est directement venu de son rapport à la musique aussi. C'était un grand écouteur de musique et il l'a prouvé maintes fois. Et pas seulement le jazz d'ailleurs. Et d'ailleurs, souvent dans ces films, on s'aperçoit que la musique n'est pas forcément au service du film. Ça ne veut pas dire qu'elle le dessert, au contraire. Mais c'est une cohabitation entre l'image et la musique. Je pense qu'il devait détester les nappes, la musique au service, comme un esclave de l'image. Et alors, quand c'est triste, c'est du violon, et quand c'est rapide, alors on va faire du xylophone, etc. Non, c'était... je vois, par exemple, Oswald Andrea pour Capitaine Conan, il y a de la dissonance. Pas seulement musical, mais dans l'accord entre la musique et l'image. Et pareil pour... en fait, c'est très jazz, j'ai le sentiment. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais je parle sous couvert de mon épouse. Mais il y a quelque chose de très jazzistique dans sa façon de faire du cinéma et de faire coller la musique à l'image.
Oui, d'ailleurs, il en parlait parfois. Il disait à propos d'ailleurs de l'Astorium qui cherchait alors là la fluidité ou la légèreté de l'Astorium dans le cinéma. Est-ce qu'il en parlait avec vous en tant que comédien? Est-ce que vous entendiez, par exemple, les musiques du film avant de tourner ou au moment de tourner?
Non, pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas prête. Je me souviens d'Oswald qui me disait mais je serai jamais prêt, je serai jamais... Et quand on tournait Ça commence aujourd'hui, de la même façon, j'ai assisté une fois parce qu'on habitait tous le même hôtel à Valenciennes en face de la gare et donc il m'a fait assister une réunion entre Louis Clavis et lui et j'étais très content d'être là. En fait, j'avais pas mon mot à dire, puis j'avais rien de pertinent à dire, mais je trouvais ça. On a le sentiment avec lui de qu'on fait un film ensemble, même si c'est lui qui dirige et qui imagine tout ça. Mais on est associés en fait. On est vraiment associés en tant que témoin, en tant que avec Louis, on s'est parlé un petit peu, et puis je l'ai vu griffonner des indications comme ça. Rien n'était... Je crois que la musique n'était pas prête avant, pour la simple et bonne raison, enfin quand il la faisait composer, que comment faire une musique alors qu'on ne sait même pas le film qu'on va faire. Donc je pense qu'il avait, il attendait le montage. Il, jusqu'au bout, ça peut changer. Jusqu'au bout, le rythme d'une scène peut être différent. Une scène peut ne plus exister au montage aussi. Donc, et ça, je pense que ça aussi, c'est très jazz. C'est le, l'instant, on verra bien. On verra bien. Et donc, il faut, faut attendre le moment clé.
Un extrait de la bande-son du film Que la fête commence, là où Bertrand Tavernier, aux côtés d'Antoine Duhamel, était allé exhumer une partition de Philippe d'Orléans, un opéra inconnu qui s'appelle Panthée. Mmh. On entendait ici le chant des prisonniers, l'air du régent. Antoine Duhamel, d'ailleurs, avait lui-même dirigé l'orchestre de la Grande Écurie et la Chambre du Roi de Jean-Claude Malgloire. Alors là, ça vient un tout petit peu contredire ce que vous disiez avant. C'est-à-dire que là, il avait vraiment pensé la musique en amont pour ce film Que la fête commence.
Pensé à cette musique, mais cette musique avait donc été composée quelques siècles avant.
Bien sûr.
Et donc, c'est pas une musique de film.
Oui.
Donc, c'est pas si contradictoire que ça. Parce que après, il faut faire coller les deux. Philippe d'Orléans ne pouvait pas supposer qu'on inventerait le cinéma et que Bertrand Tavernier ferait un film avec sa musique. Donc c'est un objet à part. C'est deux objets indépendants qui se sont rencontrés.
Qui fait
il aurait
ensemble.
Été plus facile pour lui de faire écrire un truc un peu pseudo ancien comme ça entre le Moyen Âge et le Baroque et pour que ça avoir tout ce qu'il faut, les violons qu'il faut ou les viols ou tout ce que et les tambourins. Mais là, non, c'est il choisissait pas la facilité en fait à chaque fois musicalement. C'était apprendre à vivre ensemble l'image et la musique et comment ça, qu'est-ce que ça va donner et d'accepter la parfois des dissonances en tout cas des diffractions et d'une musique pas forcément faite pour la plupart du temps en fait quand on aime une musique d'un film. C'est rare qu'elle s'écoute indépendamment. On s'ennuie quand on achète la BO d'un film. Alors, évidemment, il y a des exceptions à ce que je dis, mais je trouve que chez Tavernier, quasiment tout peut s'écouter indépendamment de l'image.
Pour terminer cet hommage à Bertrand Tavernier, est-ce que vous voudriez convoquer avec nous un moment particulier d'un tournage avec lui qui vous a marqué
pour rester dans la logique musicale, je me souviens que quand on a tourné Capitaine Conan, nous étions en Roumanie, dans des montagnes, au tout début du tournage. On tournait les grandes offensives et tout ça, donc il y avait beaucoup de figurants. Le film avait commencé depuis une semaine, et moi, à la fin de la semaine, je faisais mon premier jour de tournage dans ce film. Et c'était un 13 octobre, date anniversaire pour moi, donc je fêtais mes 30 ans, premier jour de tournage sur le film Capitaine Conan. Donc, et comme on était en fin de semaine, j'avais dit au cuisinier, on va faire une fête, je te donne un budget, et puis, sauf que j'ai oublié qu'il y avait 1000 figurants, donc ça m'a coûté un peu cher. Mais, donc on a fait tuer plein de moutons et on a fait un super méchoui le soir, il y avait la pleine lune en plus, et les cascadeurs nous ont réservé une surprise en chantant un chant traditionnel roumain. Et j'ai dit à Bertrand, mais viens voir, il était occupé ailleurs, et je lui ai dit, mais écoute ça. Et c'était d'une beauté très triste, mais d'une beauté magnifique. Et ben, ça s'est retrouvé dans le film. C'est la chanson du générique du début. Et c'était ça, Tavernier aussi. D'accepter, comment dire, il y a un proverbe qui dit, on ne sait pas d'où viennent les récompenses. Et je crois beaucoup à ça. Jusqu'au bout du bout, quelque chose peut arriver. Une idée, un apport de quelqu'un, ou entendre quelque chose. Donc, il était constamment prêt à tout.
C'est le Bertrand. Côté jazzman de Bertrand Tavernier.
Je crois, ouais.
Merci beaucoup, Philippe Torreton. Merci d'être venu ce matin dans les studios de France Musique.
Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur.
Et nous accueillons Christophe Chassol dans ce studio. Comment allez-vous, Christophe ?
Je vais fort bien, merci. Merci beaucoup. Bonjour Cécile, bonjour Philippe.
Vous retrouvez un Autour de minuit ?
Ouais,
ce matin.
Voilà, on va parler de ça, de ce morceau en fait, enfin, du standard en fait.
Round Midnight de Thelonious Monk.
Ok.
Round Midnight. From renowned international director Bertrand Tavernier. It is a story of survival.
Bertrand Tavernier.
Une histoire de survie au nom de la passion.
In the name of music.
Une histoire d'amour au nom de la musique.
My love is music. And it's
ma vie, c'est la musique. Mon amour, c'est la musique et c'est 24 heures sur 24.
Time begins again. Round midnight.
Shall we dance?
Vous l'avez vu ce film?
Alors non, mais j'ai très envie de le voir, oui, j'ai pas encore eu le temps depuis...
Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui filmaient le jazz avant 86, il est sorti en 86. Moi du coup je pensais quand même à Mobetter Blues, qui est sorti beaucoup plus tard de Spike Lee. Je trouvais que ça filmait bien les musiciens. Bon, je vous conseille d'aller le voir, en tout cas le Tavernier, Autour de minuit, qui sort en 86, donc c'est un film sur la création, quoi, en gros. C'est un film qu'il a fait, j'imagine, pour rendre hommage aux musiciens de jazz, à une époque du jazz, et oui. Parce qu'ils n'étaient pas très bien exploités à Hollywood, selon lui, en fait, en tout cas.
Ouais. Donc, surtout la figure de Lester Young, je crois.
Ouais. Et donc c'est Lester Young et Bud Powell,
Bud Powell,
donc,
ouais.
Et joué par Dexter Gordon. Donc. Ouais. La musique est d'Herbie Hancock, et donc il y a ce thème hyper connu. Et mon père, lui, qui était musicien, il disait... Round Midnight, il prononçait pas bien, il disait Round Midnight. Bonjour Round Midnight, c'est pour vous dire à quel point mon père, qui était pas un jazzman, qui faisait la musique antillaise, tout ça, lui, c'était un standard, c'était quelque chose qu'il jouait, mais comme une chanson, quoi. C'est hyper, hyper connu, ça a été composé par Thelonious Monk, donc j'imagine vers 1944. 44
ouais,
je crois que les dates divergent un peu, mais bon. Ben voilà, un thème hyper reconnaissable, c'est si mi fa si sol, si mi ré mi si la, mi sol si ré do, di na 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 na, da 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 da. On va écouter la version du film, jouée par Herbie Hancock et Bobby McFerrin. La même phrase, hein. Mi, sol, si, ré, do. Un peu plus haute. La, la. La même phrase. Elle est là trois fois, cette phrase, hein. Oh, voilà, c'est un standard de jazz. C'est un monde qui est un peu particulier. Je dirais un peu que c'est un peu le Satie, si vous voulez, quoi. C'est un peu Satie, quoi. Il était assez excentrique, mais je pense qu'on devait le prendre pour un fou, un peu à mon avis, mais je pense pas qu'il l'était du tout, même. Je crois qu'il avait une vie de famille très rangée. Mais ça a pas marché tout de suite, lui, hein. C'est ça. Il a un peu galéré quand même. Et ça a marché sur le tard, on va dire.
C'est génial, c'est le traitement vocal de Bobby McFerrin, moi j'adore.
Ouais, c'est beau. Hein.
Ouais.
Et que vous dire, oui, c'est Monk, il a un jeu assez inventif au niveau des accords, de l'harmonie, du rythme, de la déconstruction un peu des standards. Il a vachement influencé le bebop, et puis bon, ben, voilà, il est très très connu. Vous pourrez aller regarder ses interprétations du morceau sur le net. Moi, je voudrais vous parler un petit peu du thème, et puis de d'un truc qui se passe dans le thème un peu après. Donc, si mi fa si sol. On va écouter ça, plein de gens l'ont enregistré, donc on va écouter un florilège. Je vous ai préparé une petite compile. Et là, Fitzgerald dans 61. Midnight. Une version 8-bit de console. Les Nubians.
Autour de minuit, il donne parfois
en cas. Bon, intro très connue de Miles Davis en 57. J'ai Chick Corea aussi, puisque on ne finit pas les hommages à Chick aussi. Vous allez voir. Là, c'est Lady Zin, une chanteuse R&B d'avant-garde, un peu. Donc, je voudrais vous faire écouter dans ce morceau ce qui s'appelle une anatole. En musique, en jazz, c'est une succession d'accords qui arrive souvent à la fin d'une séquence d'accords et qui va sur les deuxième et cinquième degrés. Ça fait din din dam, par exemple. Ça s'appelle une anatole. C'est le deuxième, le cinquième et le premier degré. Sur la gamme de do, ça va être ré sol do. Voilà, c'est une conclusion hyper normale. Il y a un truc très juteux dans ce morceau dans Round Midnight, c'est qu'il y a un moment d'anatole qui fait dé. Voilà, comme un mouvement parallèle comme ça, qui ne se résout pas vraiment, mais qui est vraiment du jus d'harmonie hyper, hyper concentré, quoi. On va écouter. Moi, je voulais jouer, là, comme ça. Bon, là, c'est le thème. Et là.
Oui, c'est vraiment ce qui fait la singularité, la saveur de ce morceau.
C'est du jus de standard, quoi. C'est vraiment du concentré d'harmonie, du jazz, c'est du turnaround. Là, il a fait ce mouvement parallèle, ça donne une satisfaction. C'est comme un chiffre d'or, un petit peu. Et donc, bah, je vous ai fait là une compile des
oui.
Anatoles.
Alors, je crois qu'on n'a pas le temps de l'écouter. Je suis désolé, mon cher Christophe.
On a pas... Ah bah tu veux... Ah bon ? Vous êtes sûr ?
C'est ce que me dit le réalisateur.
Ah bon ?
Oui.
Bah, attends, juste les anatoles quand même. Voilà, juste ça.
Allez, on vous laisse.
Je voulais les louper.
Génial cette découpage.
Et puis Herbie et Bobby.
Christophe, on vous a dit, vous n'avez pas le temps.
Mais attendez, j'ai pas pris plus de temps que d'habitude, donc c'est qu'il y avait quelque chose. De... Peut-être qu'il y a eu une anecdote
Priscille,
de tournage trop longue.
Imposez-vous.
C'est Saskia.
On va conclure, on va faire une anatole de cette matinale. Merci beaucoup,
avec plaisir.
Christophe Chassol. Merci. C'est l'heure de vous donner le résultat du jeu concours.
Attention,
juste avant 8h. La question, c'était quelle est la maison d'édition québécoise qui sort le livret CD que nous cherchons à vous faire gagner autour des figures de Mozart, Tchaïkovski et Vivaldi. Il s'agit de La Montagne Secrète. Une petite maison d'édition québécoise qui mérite donc d'être connue. Bravo aux trois gagnants ou gagnantes de ce jeu.
À réécouter sur francemusique.fr.